Donc je vous invite à trouver l'évangile de Luc, chapitre 22. Luc 22, à partir du verset 7. Luc 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. La parole de Dieu. Vous allez dire, mais c'est un drôle de texte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui peut nous parler ce matin, en ce jour des rameaux? Alors, j'ai divisé ce texte en quatre parties. Première partie, chiffres. Deuxième partie, chance, entre guillemets. Troisième partie, chambre. Numéro quatre, choix. Et si je parle pendant 3 heures, vous allez ajouter un numéro 5, chute. Chiffres. Il est toujours intéressant de constater et de comparer le pourcentage dans chaque des quatre évangiles qui est consacré à la semaine sainte, c'est-à-dire la dernière semaine dans la vie de Jésus, jusqu'à sa résurrection, donc une dizaine de jours, on va dire. Parce que nous sommes pendant la semaine sainte dans ce texte. On est dans la ville de Jérusalem. Et quand on regarde les évangiles, on trouve qu'un grand pourcentage dans chaque évangile est consacré à une semaine dans la vie de Jésus. Sur 3 ans et plus de ministère, un grand pourcentage est consacré à la semaine après le jour des rameaux. Dans l'évangile de Matthieu, après, sur 28 chapitres, 7 chapitres sont consacrés à la semaine sainte, c'est-à-dire 25%, le quart. Dans l'évangile de Marc, 5 chapitres sur 16 sont consacrés à la semaine sainte, 31%. Qui dit mieux? L'évangile de Luc, 5 chapitres sur 24, c'est-à-dire 21%. Et la médaille d'or, c'est pour qui? 38% de l'évangile de Jean est consacré à une semaine ou 10 jours dans la vie de Jésus. Ce qui montre que c'était tellement fondamental ce qui s'est passé cette semaine-là. Et puisqu'on parle de la semaine sainte et de ce jour-là qui était à la fin de la semaine, la veille de la mort de Jésus, il faut se rappeler que pendant les jours précédents cet épisode dans la vie de Jésus, Jésus avait déjà fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Son entrée triomphante, on va dire. Jésus avait déjà apporté ses derniers enseignements sur l'avenir, la fin du monde, la fin des temps et son retour. Pendant les jours précédents, les chefs religieux en avaient de plus en plus marre de Jésus. Il est écrit, ils cherchaient le moyen pour s'en débarrasser à l'insu des foules, parce qu'ils avaient peur de la foule. Pendant les jours précédents, Satan était déjà à l'œuvre dans le cœur de Judas. Et Judas se demandait, comment est-ce que je peux livrer cet homme-là? Quelques heures après cet épisode qu'on vient de lire, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a institué le repas du Seigneur que nous appelons, et ce n'est pas un terme biblique, que nous appelons la Sainte Cène. Dans la Bible, la Sainte Cène est appelée soit le repas du Seigneur, soit la table du Seigneur, soit la fraction du pain. Mais Jésus a institué tout cela quelques heures après cet épisode. En même temps, Jésus a prévenu les disciples que le Saint-Esprit allait venir, que le Saint-Esprit allait agir en eux et à travers eux. Et par conséquent, le Saint-Esprit agit chez les chrétiens d'aujourd'hui et au travers de nous. Quelques heures plus tard, Jésus se trouvait seul dans le jardin de Gethsémané, où il a prié parmi d'autres ce que nous appelons, et encore ce n'est pas un terme biblique, ce que nous appelons la prière sacerdotale, que nous trouvons dans Jean chapitre 17. Et bien sûr, à la fin de cette prière, Judas vient avec des soldats pour arrêter Jésus. Donc, c'est le week-end pascal. La semaine dernière, Christian a parlé au sujet de la Pâque et de Pâques, et nous sommes en plein week-end pascal selon ce texte. Voici ce qu'il en est des chiffres. Maintenant, parlons de ce deuxième mot, la chance. Écoutez-moi bien. Jésus a choisi deux de ses 12 disciples pour aller faire ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il a pris une pièce de drachme pour faire pile ou face? Ou est-ce que c'était juste la chance? Quelle chance de croiser un homme avec une cruche! Ah, magnifique! Quel coup de bol que le propriétaire soit sur place et qu'il soit prêt à donner, à prêter cette pièce à Jésus. Quel heureux hasard que la pièce soit déjà aménagée. Le ménage avait été fait. C'est formidable. Je crois qu'on peut dire que Pierre et Jean étaient sous une bonne étoile ce jour-là. On peut dire la même chose, mais quelle malchance pour Judas de se suicider. Et quel manque de peau pour Goliath qui a perdu le combat contre le petit David. Vous savez, j'ai mis « chance » entre guillemets. Alors, je vais vous confesser quelque chose. Je n'ai pas beaucoup de dada. Je n'ai pas beaucoup de chevaux de bataille dans ma vie. Mais une chose qui me fait réfléchir et parfois réagir, c'est quand j'entends des chrétiens parler de la chance. Même au début d'un témoignage, un chrétien dit parfois, j'ai la chance d'être chrétien. Quand j'entends des chrétiens parler, je perds ma voix. Quand j'entends des chrétiens parler comme ça, j'ai une poussée d'urticaire et j'ai envie d'aller chercher mon fusil de chasse de façon fraternelle pour descendre la personne. Alors, on dit que la chance n'existe pas. Et c'est vrai. Les chrétiens croient normalement à la souveraineté de Dieu, qu'on appelle parfois la providence. Rien n'arrive dans la vie du chrétien par chance. Rien n'arrive dans ce monde de 8 milliards ou 9 milliards de personnes par chance. Dieu est souverain et Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu est maître de la situation. Ce qui veut dire que dans ma vie, rien n'arrive par chance. Alors voilà, chers frères, j'allais justement demander à Yves d'aller chercher de l'eau.
Hey. Il y a beaucoup de chance.
Il sait lire mes pensées. Merci Yves. Mais c'est vrai, j'allais te demander parce que tu es assis là-bas. Très bien, merci. Alors, où est-ce que j'en étais? Jésus avait prévu cette rencontre. Ce n'est pas par hasard que ce monsieur avec la cruche croise Pierre et Jean. Jésus avait prévu la rencontre et l'endroit, la maison et même la pièce en particulier. Tout avait été prévu par grâce. Si je suis chrétien, ce n'est pas par chance, par hasard, mais par grâce. Si quelque chose m'arrive cette semaine, une bénédiction, ce n'est pas le hasard ou un coup de bol, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui a conduit et prévu. Là où vous habitez, votre maison, votre appartement, votre chambre d'étudiant, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. C'est parce que Dieu avait prévu. Vos voisins, votre médecin, votre dentiste, votre coiffeur et ainsi de suite, ce n'est pas par chance. Dieu a prévu. Dieu a conduit les circonstances. Et très souvent, on peut voir la main de Dieu dans nos rencontres, par hasard, entre guillemets. On peut le prier pour nos rencontres déjà cette semaine. Je ne sais pas qui je vais croiser cette semaine. Mais on doit prier que Dieu conduise nos rencontres et nous aide, qu'il nous aide dans nos paroles. Le hasard est un mythe, une fable. Pierre Lacha, dans un de ses chants, a écrit, j'écris hasard avec un grand D. C'est-à-dire Dieu est derrière tout cela. Dieu prévoit, Dieu conduit. Je donne un petit exemple, tout était banal, pas banal on va dire. Certains savent que notre beau-fils Théo, en région parisienne, a eu un accident de voiture un jeudi soir. Il y a 2 mois maintenant. Rien n'est grave, mais la voiture était morte de chez morte. C'était un jeudi soir, vendredi. Bon, il n'était pas bien. Le lundi suivant, sa femme, notre fille Mérie, devait partir une semaine avec sa classe à Londres. Donc, il n'avait plus qu'une voiture, ceux deux. Il fallait 2 voitures pour leur vie quotidienne, on va dire. Donc, elle part à Londres avec 3 collègues et 30 élèves. Théo est à la maison avec l'autre voiture. Ils disent, mais il nous faut 2 voitures, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par chance, un des profs avec notre Meryl à Londres a dit, au fait, je vends ma voiture. Et par chance, c'était une voiture dont Meryl et Théo rêvent depuis des années. Et ils ont dit, mais quel prix? Oh, il a donné le prix, elle dit, ah oui, c'est super. Elle appelle son mari, elle dit, quel coup de bol. Non, elle n'a pas dit ça, sinon je l'aurais déshérité. Le Seigneur est bon. Le seul collègue, ils étaient un homme et 3-4 femmes, le seul collègue qui est là, vend la voiture, il veut nous la vendre à un prix défiant toute concurrence. Donc, il a fallu bien sûr que la voiture passe le contrôle technique. Donc, Meryl revient le vendredi soir, rempli de joie. Le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Et puis, lundi matin, il fallait 2 voitures pour aller au travail. Et la voiture qui allait être vendue n'était pas prête. Mais les voisins, un jeune couple, ils ont 3 voitures. Oh, quelle chance d'avoir des voisins avec 3 voitures quand ils ne sont que 2 adultes. Donc, ils disent, on te prête une de nos voitures pendant 3 semaines, 4 semaines, le temps qu'il faut. Tout était prévu. Et la voiture a passé le contrôle technique, ils l'ont acheté et ils sont venus avec il y a 3 semaines pour nous voir. Chance, hasard ou providence. Le Seigneur conduit même dans les déceptions. Le Seigneur est présent même dans nos découragements. Donc, la prochaine fois que quelqu'un, et j'allais dire, parfois j'entends un prédicateur connu, dit, oh, quelle chance que j'ai eu de me marier avec cette femme-là. La chance, si jamais j'ai la malchance de vous entendre parler comme ça cette semaine, je vais prier pour... La maîtrise de soi. Chambre. Le mot chambre n'est pas employé ici. C'est dans l'évangile de Marc, 14, verset 15, qu'il parle de la chambre haute. Mais le mot « chambre » est utilisé plusieurs fois dans la Bible et c'est souvent juste une grande pièce où les gens vivaient. Alors, si vous demandez à Savino et à Philomène et à d'autres personnes dans cette église comment était leur petite enfance, ils vont dire, mais notre maison était une pièce. Il y avait les toilettes, souvent un seau derrière un meuble, la cuisine, deux ou trois lits, les poules, les lapins et les cochons étaient juste devant. C'était leur maison, une pièce. Et très souvent, au temps biblique, c'était une grande pièce où on faisait tout. Et ici, donc, c'est une grande pièce qui était préparée pour la préparation de la Sainte Cène. Alors, en parlant des chambres, est-ce que vous connaissez des chambres mentionnées dans la Bible? Exode 7. Des grenouilles sont montées même dans les chambres et dans les lits des Égyptiens. Ça vous intéresse? Ça vous tente d'avoir des grenouilles dans votre chambre? Juge 3, le roi Eglon, roi de Moab, qui faisait peut-être 150 kilos, il était tué, assassiné par Ehud, un juge, dans sa chambre d'été. Et si vous lisez Juge 3, il y a un détail très pittoresque de ce qui s'est passé quand le couteau est entré dans le bide du roi Eglon. Je ne vais pas vous faire un dessin, j'ai failli prendre une photo, mais c'est très pittoresque. Chapitre 19 de 1 Samuel, Saül, envoie ses hommes pour arrêter et tuer David dans sa chambre. 2 Samuel 19, quelques années plus tard, David se retire dans sa chambre pour pleurer la mort d'un de ses fils, à savoir Absalom. 1 Roi 2, David meurt dans sa chambre. Tout le monde ne meurt pas au lit, mais David, il est spécifique qu'il est mort dans sa chambre. 1 Roi 17, Élie le prophète intercède pour un garçon dans sa chambre. Il prie pour ce garçon, que Dieu le ressuscite. 2 Rois 4, un couple aisé, disent, voilà cet homme, Élisée, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut qualifier d'homme ou de femme de Dieu. Élisée, un homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas agrandir notre maison pour construire une chambre pour lui? Et c'est ce qu'ils ont fait pour le prophète Élisée. Deux Chroniques 22, le petit Joas, je crois qu'il avait 7-8 ans, peut-être même pas, mais il était caché avec sa nounou dans une chambre parce que le roi, la reine Athalie voulait tuer tous les membres de la famille royale. Et la nounou et Joas étaient cachés dans une chambre dans le palais royal. Dorcas, qui est aussi appelée Tabitha, elle est décédée dans Acte 9, dans la ville de Joppé, qui est une banlieue de Tel Aviv aujourd'hui d'ailleurs. Elle est emmenée dans sa chambre une fois qu'elle est décédée. Et Pierre prie pour elle et Dieu la ressuscite. Eutychus, il est tombé d'une fenêtre dans une grande chambre où avait lieu un culte. Il s'est endormi, c'est chose qu'il ne faut jamais faire. Il s'est endormi pendant un culte. Est-ce qu'il y a des gens? Non, ça va. Il était assis à la chambre et quand on s'endort devant... il a été assis à la fenêtre. Quand on s'endort, la fenêtre est ouverte parce que le clim était en panne. Donc il faisait chaud. Il est tombé, il est mort. Et puis Paul vient et prie. Et par chance, merci beaucoup, oui, il est ressuscité. Dieu a agi dans sa souveraineté, dans sa providence. Et puis un autre exemple parmi d'autres, Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Ce qui veut dire aussi, quand tu pries, isole-toi, va quelque part où tu ne seras pas dérangé et prie ton Père qui est dans les cieux. Les chambres dans la parole de Dieu. Et dernier point, choix. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire choix? Eh bien, Est-ce qu'il y avait de la jalousie parmi les disciples? Je m'explique. Certains disciples ont été choisis pour certaines tâches. En l'occurrence ici, Pierre et Jean. Sur les 12, 2 ont été choisis pour aller dans cette ville. Parfois, il est question d'un cercle intime parmi les 12 disciples, à savoir Pierre, Jacques et Jean, qui étaient parfois seuls avec Jésus pour certains miracles, pour certains événements. Je me suis toujours demandé, mais Pierre s'est converti grâce à son frère André. Mais Jésus n'a pas choisi André, mais Pierre, Jacques et Jean pour certaines choses. Est-ce que André était jaloux? Alors, on voit nulle part dans les évangiles une trace, un signe de jalousie parmi les disciples. Mais on est hommes, on est femmes, on est êtres humains, et la jalousie nous guette tous. Je pense aussi dans Acte 4, Acte 5, on parle de 2 disciples sur les 12, Pierre et Jean. Et plus tard dans le livre des Actes, on parle de Pierre et Jacques. Tous les 2, des leaders dans l'église à Jérusalem, mais Jacques se fait décapiter. Pas Pierre. Hérode, dans l'ordre de faire tuer Jacques. Pas Pierre. Pierre devait mourir le lendemain, mais il était libéré miraculeusement de la prison. Est-ce qu'il y avait de la jalousie parmi les membres de la famille? On n'en parle pas. Mais, étant donné que ce sont des êtres humains, la jalousie aurait pu exister. Il y en a des cas de jalousie dans la Bible. Caïn, par rapport à Abel, son frère. Les frères de Joseph, à cause de la bêtise du papa, Jacob, qui a gâté Joseph. Saül, jaloux de David. Vous connaissez le tube de l'été. Après la mort de Goliath, Saül a tué ses milliers, David a tué ses dizaines de milliers. Et c'était un gamin, enfin, presque. Et Saül, un roi expérimenté. La jalousie. Et puis parmi les fils de David, il y a eu des cas de jalousie. La jalousie, les amis, est un choix. Je choisis d'être jaloux ou je choisis de rejeter la jalousie. Moi, est-ce que je suis jaloux? La jalousie peut exister parmi les chrétiens. La jalousie existe déjà dans le monde politique, dans le monde sportif, dans le monde cinématographique. La jalousie peut exister entre les membres de la même famille, dans notre voisinage. Je peux être jaloux du jardin de mon voisin. Je peux être jaloux de la maison de mon voisin. Je peux être jaloux de la voiture de mon voisin. Je peux être jaloux de la femme de mon voisin. Des enfants de mon voisin. Bah, vous savez, on peut être jaloux de tout, de tant de choses. Dans une pièce de Shakespeare, il compare la jalousie à un gros monstre aux yeux verts, prêt à attaquer quelqu'un. Et c'est tout à fait ça. La jalousie est comme un monstre prêt à nous attaquer. L'apôtre Pierre emploie une autre image. Il ne parle pas d'un monstre, il parle d'un lion, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5. Il n'y a rien de tel pour tuer des relations, pour pourrir des relations. Et comme je disais il y a quelques instants, être jaloux ou ne pas être jaloux, c'est un choix que vous devez faire, que moi je dois faire, on va dire presque tous les jours. La jalousie peut nous habiter, mais la jalousie peut nous ronger, gangréner, dévorer. Être jaloux ou ne pas être jaloux. Ça m'a fait penser à une autre citation de Shakespeare. Être ou ne pas être. That is the question. Être jaloux ou ne pas être jaloux? C'est ça la question. Et je dois trouver ma réponse. Choisir de rejeter la jalousie, l'envie, ou pour prendre le terme biblique, dans le 10e commandement, quel est le verbe? Tu ne convoiteras pas l'âne de ton voisin. Alors, mon voisin n'a pas un âne. Il a plein de poules, plein de coqs, une seule vache. Mais je ne vais jamais les jalouser, je peux vous le dire. Mais le problème, c'est de convoiter, jalouser. Une question, un choix pour chacun. Deuxième chose, avant de terminer, dans ce texte, j'ai déjà dit au moins une fois de cette chair que ça, c'est les quatre lettres que Dieu aime le plus dans l'alphabet. Obéissez. O-B-I-C. Alors, pourquoi j'ai mis obéissez? D'ailleurs, ça, c'est les quatre lettres que Dieu aime le plus. Enfin, j'ai mis ça entre guillemets, bien sûr. Hein. Quelles sont les quatre lettres, les trois lettres que les chrétiens aiment le plus? Ça ne va pas s'afficher sur l'écran. Le M, le A, le Z. Pourquoi est-ce que les chrétiens aiment ces lettres-là? M-A-Z. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous a dans sa main, et Dieu nous aide. Compris? Est-ce que je dois répéter ça en anglais, chinois et français et lingala? Non, ça va. Bon, vous avez compris. Pierre et Jean ont obéi à Jésus. Ils n'ont pas tout compris. C'est évident. Mais Jésus dit, va et rencontrer telle personne. Et Pierre et Jean ont obéi. Ils n'ont pas compris tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Mais leur mentalité était, Jésus me le demande, alors j'exécute. Déjà, Pierre avait dit quelques années auparavant, « Sur ta parole, je vais jeter des filets. » J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais Jésus dit, « Va jeter des filets. » Il a dit, « Sur ta parole, j'y vais. » Et puis, il y a eu une pêche miraculeuse. Parfois, on a envie de tout savoir avant de s'engager dans quelque chose avec le Seigneur. Parfois, on a envie de tout voir, noir sur blanc, devant nous, avant de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais si on agit comme ça, si on a ce raisonnement-là, on ira nulle part. Je pense à Abraham. Dieu lui dit, quitte ce pays-là et va dans celui-ci. Quelle décision! Et il y va, il est écrit dans Genèse 12 ou 15, il est allé étape par étape. Et pour obéir au Seigneur, on doit toujours aller un pas à la fois. Sans tout savoir, sans tout comprendre. On commence nos études. On a 3, 4, 5, 10 ans d'études devant soi. Où est-ce que ça va nous mener? On y va par la foi. On commence une carrière. Où est-ce que ça va nous mener? Un pas à la fois. On a une famille, des enfants. Où est-ce que ça va nous conduire? On ne voit pas tout. Et heureusement qu'on ne voit pas tout. Et même si vous rencontrez des gens qui se disent prophètes et qui veulent vous prédire votre avenir, méfiez-vous-en. Dieu va vous conduire un pas à la fois. Un jour à la fois. Étape après étape. Si vous permettez un autre petit témoignage personnel, j'ai quitté mon pays natal, il y a 46 ans, et je savais que je devais venir en France, je savais que je devais étudier à Grenoble. C'est tout ce que je savais. Dieu a conduit pour que je sois logé dans un appartement avec cinq autres jeunes, et moi. Après une année de Grenoble, au début, je ne savais pas où j'irais, mais Dieu a conduit par pur hasard, dans sa bonté, que j'aille au Mans. que je rencontre Brigitte quelques années après, que nous allions à La Flèche, que nous allions à Arras, que nous venions ici il y a presque 14 ans. On ne savait pas il y a 46 ans que j'allais être marié et grand-père plusieurs fois aujourd'hui. Mais Dieu conduit un pas à la fois. Et quand vous vous engagez avec le Seigneur, ou dans un service, ou dans une activité pour le Seigneur, ne vous attendez pas à tout savoir à l'avance. Parce que d'une part, ce ne serait pas bon pour votre cœur. Et vous allez vouloir faire marche arrière tout de suite, à cause des épreuves, et des difficultés, et des déceptions. Mais quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous devons y aller un pas à la fois. Sachant que c'est lui qui ouvre des portes, c'est lui qui ferme des portes. Et il nous demande de lui faire confiance. Donc, nous avons des choix. Est-ce que je vais me laisser dévorer, gangréner par la jalousie? Et physiquement, on peut avoir des soucis aussi. Est-ce que je vais décider d'obéir à Dieu et d'aller là où il m'appelle sans tout savoir, sans tout comprendre? Deux grandes questions auxquelles vous devez répondre, auxquelles nous devons répondre et auxquelles je dois répondre. Que Dieu nous aide à donner les bonnes réponses. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, tu vois devant des choix, nous sommes tous devant des choix, déjà pour cette semaine, parfois des choix importants. Et nous te prions de nous aider à nous confier en toi pour chaque décision, pour chaque choix. Pardonne-nous lorsque nous avançons par la vue, non pas par la foi. Aide-nous à avancer par la foi en toi, sachant que la chance n'existe pas. Sachant que c'est toi qui conduiras nos pieds, nos pas, nos paroles et nos pensées. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ce que tu nous demandes de faire, même si on ne saisit pas tout. Merci pour les bénédictions qui attendent ceux qui te suivent, ceux qui t'obéissent par la foi. Au nom de Jésus, nous prions pour ton aide. Amen.